Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce jeudi 9 décembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et Christophe Mallet pour une heure en français. Au cours de cette émission, le journal, les sports, le journal de l'économie et focus sur l'Alliance française d'Adélaïde en cette fin d'année. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Tout d'abord, les grands titres de ce 9 décembre. Le vice-premier ministre Barnaby Joyce, testé positif au Covid-19 aux États-Unis. Les responsables de la santé prévoient qu'Omicron deviendra le variant dominant du coronavirus en Australie. Après 16 ans de régime conservateur sous Angela Merkel, l'Allemagne a choisi un nouveau chancelier, le social-démocrate Olaf Scholz. Le vice-premier ministre et leader du Parti national, Barnaby Joyce, a testé positif au Covid-19 après son arrivée aux États-Unis. Le vice-premier ministre était à Washington, D.C. pour des travaux en relation au plan du gouvernement pour une nouvelle réglementation des médias sociaux. Barnaby Joyce déclare qu'il a commencé à ressentir des symptômes bénins et a choisi de se faire tester. Les autres membres de la délégation ont testé négatif. Barnaby Joyce est actuellement en isolement dans un hôtel. Les experts de la santé affirment que le variant Omicron est susceptible de devenir la souche dominante de Covid-19 en Australie, après que le Queensland et le Victoria ont enregistré leur premier cas. Pendant ce temps, en Nouvelle-Galles du Sud, une soirée trivia dans un pub du centre-ouest de Sydney, qui a eu lieu le mois dernier, a été révélée comme la source d'un nouveau cluster Covid-19 après que 44 personnes ont été diagnostiquées avec le virus. Les clients du pub ont testé positif après la soirée à la taverne Oxford à Petersham le 30 novembre dernier. En Australie, les adultes pourraient bientôt avoir le choix entre deux vaccins Covid-19 pour leur dose de rappel. Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que la Therapeutic Goods Administration avait provisoirement approuvé le vaccin Moderna comme rappel pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Son utilisation doit encore recevoir l'approbation finale de ATAGI, le groupe consultatif technique australien sur la vaccination, avant de rejoindre le vaccin Pfizer dans le programme de doses de rappel. Greg Hunt déclare que les boosters deviennent de plus en plus importants à mesure que de nouveaux variants comme Omicron continuent de se développer.
Australians will have two options for boosters very, very shortly. And I think this is another important step. Every day, we're making new strides and new progress with the vaccine program. We've now reached 93% of Australians with the first dose, 88.5% of Australians with a second dose, 580,000 Australians with a booster.
Une nouvelle enquête a révélé que la plupart des Australiens avaient l'intention de se faire vacciner contre le Covid-19, mais l'hésitation à la vaccination reste au sein des communautés les plus défavorisées. L'analyse de ANU, l'Université nationale australienne, a révélé que près de 72% des adultes vaccinés avaient l'intention de recevoir une troisième dose, mais les inquiétudes concernant les effets secondaires restent la principale préoccupation des sceptiques face au vaccin. L'organisme consultatif national sur la vaccination considère actuellement Moderna comme une option de rappel après son approbation par la Therapeutic Goods Administration, tandis que Pfizer a déjà été approuvé. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les gouvernements devraient réévaluer leur réponse au Covid-19 et accélérer les programmes de vaccination pour lutter contre le variant Omicron. Tedros Ghebreyesus déclare que la propagation mondiale de la nouvelle souche suggère qu'elle pourrait avoir un impact majeur sur le cours de la pandémie. Omicron a maintenant été signalé dans 57 pays. Le directeur général déclare que les nations du monde doivent agir de toute urgence pour le contenir.
The steps countries take today and in the coming days and weeks will determine how Omicron unfolds. If countries wait until their hospitals start to fill up, it's too late. We're running out of ways to say this. Every government and every individual must use all the tools we have right now.
Un comité sénatorial doit révéler ce jeudi ses conclusions tant attendues sur l'état des médias australiens. Plus d'un an après sa création, suite à une pétition lancée par l'ancien Premier ministre Kevin Rudd, l'enquête sur la diversité des médias rendra son rapport final sur l'état actuel du journalisme en Australie et l'effet de la concentration des médias. Le comité a également examiné les obstacles rencontrés par les petits médias indépendants et le rôle des services de presse dans le soutien du journalisme d'intérêt public. La conseillère du gouvernement britannique, Allegra Stratton, a démissionné à la suite de la fuite d'une vidéo enregistrée l'année dernière où elle semblait plaisanter sur une fête de Noël à Downing Street alors que la Grande-Bretagne était sous lockdown. Madame Stratton, anciennement attachée de presse du Premier ministre Boris Johnson, a fait une déclaration en larmes, s'excusant pour ses propos, affirmant qu'elle les regretterait pour le reste de sa vie.
My remarks seemed to make light of the rules. Rules that people were doing everything to obey. That was never my intention. I will regret those remarks for the rest of my days, and I offer my profound apologies to all of you at home for them.
La fête de Noël est la dernière d'une série d'allégations de violation des règles et de violation éthique par le gouvernement conservateur de Boris Johnson. Le Premier ministre a déclaré au Parlement qu'il avait demandé au secrétaire du cabinet d'enquêter sur les allégations et que si les règles étaient enfreintes, des mesures disciplinaires seraient prises.
And I can understand how infuriating it must be to think that the people who have been setting the rules have not been following the rules, Mr. Speaker, because I was also furious to see that clip. And Mr. Speaker, I apologize unreservedly for the offense that it has caused up and down the country, and I apologize for the impression that it gives.
Et analyse maintenant de toutes ces nouvelles en Grande-Bretagne avec Sidonie Gaucher pour Radio France Internationale.
Le pouls s'accélère et la transpiration est excessive à Westminster. Un effet du stress ou de la cocaïne? Sans doute un peu des deux pour le gouvernement qui s'enlise avec la découverte de traces de cocaïne au Parlement, dans les salons et les toilettes, dont celles qui jouxtent le bureau de Boris Johnson. Manque de chance, le Premier ministre vient d'annoncer un grand plan de lutte contre la consommation de stupéfiants. D'autre part, dans la soirée de mercredi, c'est une conseillère en pleurs qui annonce sa démission suite à la fuite d'une vidéo. On la voit plaisanter à propos de la fête de Noël sans geste barrière l'année dernière dans les bureaux de Boris Johnson. Celui-ci s'est excusé tout en niant l'existence de ces fêtes. Selon un sondage, plus de 9 personnes sur 10 pensent qu'elles ont bien eu lieu en pleine surcharge des hôpitaux et interdiction de fêter Noël en famille ou entre amis. Une majorité de votants, même chez les conservateurs, pensent que les membres du gouvernement n'ont pas respecté les mesures sanitaires. Là encore, ce scandale intervient alors que de nouvelles restrictions entrent en vigueur.
Après 16 ans de régime conservateur sous Angela Merkel, l'Allemagne a choisi un nouveau chancelier, le social-démocrate Olaf Scholz. Il s'est positionné comme le successeur naturel de Madame Merkel et une paire de mains sûres pour guider l'Allemagne à travers des défis tels que la crise climatique, une Russie plus conflictuelle et une Chine de plus en plus agressive.
Ich möchte mich sehr für Ihre Arbeit in den letzten 16 Jahren bedanken. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre travail depuis 16 ans. L'Allemagne a profité de votre présence à sa tête. Notre coopération a toujours été marquée par une profonde confiance. C'est une bonne chose. Cela souligne la qualité de notre système politique où un large consensus existe entre les forces démocratiques. C'est quelque chose de particulier d'être chancelier de ce pays. C'est un défi de poids. Je suis très reconnaissant d'avoir obtenu des citoyens et du Parlement le soutien nécessaire. Nos nombreuses expériences communes m'aideront dans cette tâche. Merci encore pour votre travail.
Et lors de la prestation de serment du nouveau chancelier et de son cabinet, le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, les a appelés à guider le pays à travers la pandémie de Covid-19.
Die Menschen hoffen darauf.
People are hoping that you will show leadership and take the right measures together with the federal states. What matters in an acute emergency is not listening to the loudest, but ensuring that the pandemic doesn't keep us firmly in its grip for another year and that public life can once again become a matter of course.
Analyse maintenant de Pascal Thibault pour RFI sur cette passation de pouvoir en Allemagne.
Olaf Scholz, deux fois ministre d'Angela Merkel, depuis 4 ans aux finances, connaît bien la chancellerie de l'intérieur où se tiennent les conseils des ministres. Cette fois, il en prend la direction. La transition apaisée entre deux responsables qui se respectent et s'estiment, et au style sobre à ses proches, était également de mise lors de la brève passation de pouvoir. Angela Merkel a salué son successeur avec quelques petits conseils.
Monsieur le chancelier, je sais par expérience qu'il s'agit d'un moment émouvant. Vous vous apprêtez à prendre une fonction exigeante et très prenante, mais si on s'y attelle avec joie, c'est sans doute une des plus belles fonctions que l'on puisse exercer.
Olaf Scholz a à nouveau rendu hommage à Angela Merkel, comme il l'a fait à de nombreuses reprises, en insistant également sur les parallèles entre lui et l'ex-chancelière.
Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre travail depuis 16 ans. L'Allemagne a profité de votre présence à sa tête. Notre coopération a toujours été marquée par une profonde confiance. Nos nombreuses expériences communes m'aideront dans cette tâche. Merci encore pour votre travail.
Olaf Scholz a promis un nouveau départ à l'Allemagne avant de raccompagner Angela Merkel sur le perron.
En Australie, un film controversé sur le tireur du massacre de Port Arthur a dominé les prix annuels décernés par ACTA, l'Académie australienne des arts du cinéma et de la télévision. Nitram, qui suit la vie de Martin Bryant dans la banlieue d'Adélaïde dans les années 90, a remporté des prix dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur et actrice principale. La cérémonie qui s'est tenue à l'Opéra House de Sydney a également rendu hommage à l'acteur aborigène David Gulpilil qui a reçu à titre posthume le prix Longford Lyle. Dans un hommage émouvant, l'actrice Natasha Wanganeen a expliqué à la cérémonie comment l'acteur l'avait inspiré en grandissant.
When I saw you on TV, I stopped my dad and I said, Dad, he looks like us.
Show you something else, Dawn Boy.
So thank you, Bippy, for inspiring me and every other Aboriginal actor that has ever graced our screens. You paved the way and opened up doors for us that I never thought possible as a 7-year-old girl.
L'Australie rejoint les États-Unis dans leur boycott diplomatique des JO d'hiver de 2022 à Pékin. Aucun responsable du gouvernement australien n'assistera aux Jeux, mais les athlètes du pays iront en Chine. Cette nouvelle intervient au milieu des tensions croissantes entre la Chine et l'Australie et en solidarité avec l'administration du président américain Joe Biden, qui a cité les violations des droits humains par la Chine dans son traitement des minorités ouïghours. Le premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que cette décision était dans l'intérêt national du pays.
Australia is a great sporting nation. And I very much separate the issues of sport and these other political issues. They're issues between two governments. And I would like to see those issues resolved, but they are not resolved. And Australia will not step back from the strong position we've had, standing up for Australia's interests. And consistent with that position, then obviously it is of no surprise that we wouldn't be sending Australian officials to those games. But our athletes will be going.
Le porte-parole des affaires étrangères de la Chine, Wang Wenbin, a déclaré que l'Australie venait d'inventer une excuse pour ternir l'image de la Chine et que sa position viole le principe de neutralité politique de la charte olympique.
The Winter Olympics is not a stage for political posturing and manipulation. China has not invited any Australian government officials to attend the Winter Olympics, and no one would care about whether they come or not. The Australian politicians' political posturing and hyping for their own political interests have no impact whatsoever on the successful Beijing Olympic Games.
Pendant ce temps, le CIO, le Comité international olympique, a défendu sa gestion du problème de Peng Shuai, la joueuse de tennis, qui a allégué une agression sexuelle contre elle par un dirigeant du Parti communiste. Le chef de la commission de coordination du CIO à Pékin, Wan Samaranch, affirme qu'une approche diplomatique discrète est parfois plus efficace.
Don't write it off, the silent diplomacy. It's a very powerful tool. And we plan to stick to that for many, many issues of that caliber, of that difficulty and of that importance.
Et la dernière nouvelle, le Canada s'est joint à l'Australie et à la Grande-Bretagne dans ce boycott diplomatique dirigé par les États-Unis. Un mot de foot avec la Ligue des Champions et le club français Lille qui bat Wolfsburg 3-1 et assure leur première place du groupe G. Et Lille sera en huitième de finale, tout comme le Paris Saint-Germain. Cédric de Oliveira pour RFI.
Un match presque parfait pour le LOSC qui s'est imposé 3-1 en Allemagne. Les Lillois avaient besoin d'un match nul. Ils n'ont jamais tremblé à Wolfsburg. C'est vrai qu'ils se sont facilité les choses, les Lillois, avec un but rapide de Burak Yılmaz sur un service de Jonathan Ikoné. Il y avait 1-0 donc à la 11e minute. Un but d'avance à la pause avant que Lille n'étende un peu plus son emprise sur le match avec une solidité à toute épreuve face à des Allemands, c'est vrai, assez inoffensifs. En deuxième période, c'est l'inévitable Jonathan David qui a ajouté un deuxième but avec sang-froid. Et enfin, le jeune anglais Angel Gomez sur un nouveau service de Jonathan Ikoné qui a été intenable sur la pelouse de la Volkswagen Arena. Malgré la réduction du score anecdotique de Stephen, le LOSC s'est donc imposé 3-1 face à une faible équipe de Wolfsburg. Lille termine même premier du groupe G et se qualifie donc pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Vous l'avez dit, une première depuis 2007. Lille qui sera accompagnée par Salzbourg. Le club autrichien a battu de son côté le FC Séville 1-0, les deux qualifiés de ce groupe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Et nous aurons un magazine de sport tout spécial avec notre collègue Christophe tout de suite après ce journal. La météo, le temps humide et les inondations se poursuivent autour de la Nouvelle-Galles du Sud, certaines régions devant recevoir leurs précipitations mensuelles moyennes avant la fin de cette semaine. Les tempêtes constituent également une menace dans l'État. Le bureau de la météo émettant un avertissement de temps violent pour les tempêtes et les inondations. Et à travers l'Australie, pour ce jeudi en Australie, donc à Perth, il fera 36 degrés, Adélaïde 22, Melbourne 19, Hobart 18, Canberra 20, Sydney 24, Brisbane 32, Cairns 34, Darwin 33 et à Alice Springs, maximal de 30 degrés. Un rappel des grands titres de ce 9 décembre, le vice-premier ministre Barnaby Joyce testé positif au Covid-19 aux États-Unis. Les responsables de la santé prévoient qu'Omicron deviendra le variant dominant du coronavirus en Australie. Fin du journal et dans quelques instants donc le magazine des sports en compagnie de notre collègue Christophe.
Programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench. Thank you.
Journal des Sports en ce jeudi, et Journal des Sports un petit peu spécial puisque nous avons décidé de, eh bien, de faire un focus sur le Paris-Dakar et la grande star australienne du Paris-Dakar, Toby Price. Il a gagné deux fois le rallye, il repart pour tenter de gagner donc une troisième couronne sur le rallye raid. Rencontre exclusive, entretien exclusif avec Toby Price, l'Australien qui rêve de gagner un troisième Dakar.
Great pleasure to have Toby Price. Toby, again on SBS, again for a new adventure towards the Dakar. Mate, how are you feeling about this?
Yeah, everything's going really well. New bike is going good for us. Body's in shape. So 2022, hopefully we can kick started off into a good year with a good result. So it's coming up very quickly.
So you're already in Dubai, already preparing for it. Last year, is that one you just forget about it and then you go forward?
Yeah, 100%. Yeah, we're in Dubai at the moment, getting prepped and organized for the big one. So, unfortunately, this year didn't go to plan. We're all in a good position and where we needed to be. And unfortunately, I made the error and landed on my head and smashed all my shoulder up. So, yeah, put that one on the back burner. Forget about that one. It's been done and dusted, and we need to recoup and redeem ourselves in 2022.
So, how much experience are you bringing into this new Dakar? Because Saudi was a new land, and then last year there's a bit more experience. But now it's somewhere you know, and you know better and better and better. How much of that experience is going to help you this year?
Yeah, for sure. Every time you go to a new place and experience new things, it's always a challenge. So we've been there now for the last 2 years. So we have a little bit of background, a bit of area, and know where we're going through for the route for the day. So this definitely helps and brings everything up to speed a bit for us. So, but everyone's in that same boat as well. Everyone's got that same experience. So the challenge is always there and makes it quite difficult for us.
Good Aussie contingency this year, because of course there's Dan Sanders that last year did very well as well, but you got Molly Taylor as well. We had Molly a few weeks ago on SBS. I believe you know Molly very well. How much advice have you been giving her to her?
Yeah, look, honestly, it's cool to see more Aussies getting into the Dakar sport now. So yeah, Daniel came off a good result from this year in 2021, and Molly, her first time. It's going to be a new experience for her, but she knows how to drive a car extremely well. So that's that part I definitely can't help with. But just the terrain in the area and kind of what to expect and the long days. And I've assisted where I can and helped out. But she spent some time here in Dubai as well, and I've seen her here a few times. And the experience is going well for her. So. If she needs anything, for sure, being an Aussie, definitely love to help out and try and get some more Aussies up at the pointy end of the field.
Do you feel that the Dakar is getting even more and more popular? We see it on SBS. The numbers are going up and up and up and up. Do you see this as well in your fan base, in your day-to-day life?
Yeah, for sure, 100%. It's it blows you away. You're somewhere on the other side of the world, and people recognise you from the Dakar Rally. So, the fan base for me is definitely growing worldwide, and it's a cool experience to have for us. So it's to have two of them actual Dakar winning trophies in our hands is a dream come true. It just it's always a thing we want to do and be at the pointy end of the field, but to do it, it takes so much more than what most people think, and the race is definitely a challenge in itself. So it's definitely growing worldwide popular, and with all the situation we're at the moment, we were basically the only event that really went ahead at the start of this year, and all eyes were kind of on us because we were the only sporting event around the world running and competing. So it was it's definitely growing, which is cool.
So if we look what's about to happen to you, can you take us through what is a stage at the Dakar? Because Molly explained to us it's 8 hours in the sand, in the dirt, it's hot, it's steamy, and then you got to keep a cool head for 8 hours. I mean, it's a lot more than just a small highlight you see on SBS.
Yeah, 100%. what you probably, yeah, it's amazing to have SBS's support and showing what we do, but yeah, you only get the highlights and the nice, pretty, awesome areas of what Dakar really brings. But behind the scenes of it all, it's tough, it's grueling, and physically and mentally challenging. So yeah, like you say, we on the motorcycle category, we are up anywhere from like 3-4 o'clock in the morning. We ride a liaison section, which is basically like a transport stage. That can be anywhere up from 300-500 kilometers in the morning, and then we have the stage which we actually compete in. That can take anywhere from five to six hours or less, and then we have a liaison at the end of the day to get to the bivouac. So some days, yeah, it's like 8-9 hours on the seat. Some other days it can be 12-13 hours on the seat. So it's quite big, long days. And our actually our first day, starting on January 1, is a 800-kilometer liaison section to do a prologue lap, so which I think is only around like 10-12 kilometers. So that kickstarts our whole race. But yeah, we've got straight up 8 hours in the saddle just of riding and taking the scenery. So it's pretty cool.
It's a nice little Melbourne to Sydney ride to do a tour of Centennial Park, pretty much.
Yeah, 100%. That's it. It's like explaining to somebody, yeah, you ride from Sydney to Brisbane, and yeah, you do, yeah, a ride around a nice park in the area, and then that's the day done. But sure, day two is going to be a challenge. It's it's going to be anywhere from 300-400 kilometer liaison in the morning, and then maybe a 400 kilometer stage. So that's when it starts to get into the nitty gritty part, and we need to make sure we stay at the pointy end of the field by week two and try and put a good charge on, and try and get that third one in our hands. That's the ultimate goal and the dream.
Toby, it's always a pleasure to talking to you. What can we wish you for this edition?
Yeah, look, honestly, we're just looking forward to the 2022 season kicking off and just starting off in a strong way. So if ultimate goal is to win Dakar, and that's what we're signing up for. And if I didn't believe I could do it, then yeah, for sure, probably wouldn't be lining up. But I know I have a couple of wins still left in me. And if things go right and Dakar gods look after me and everything goes right, we should be in a good form. But the support from everyone at home in Australia and all around the world, it definitely blows me away. And it's cool that, Penguin have jumped on board to bring this book to life for us and explain our story, that people can see what really went on behind all the scenes. So it's cool.
We're all going to pray the Dakar gods. You're right. Thanks, Toby.
Mate, unreal. Appreciate it. Thanks for the time. And we'll hopefully talk in 2022 with a good result.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Malgré des mois de confinement et les restrictions sur les voyages, les Australiens se préparent à dépenser des petites fortunes pour la Noël, encore une fois.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est la Commonwealth Bank. Ils ont ce qu'on appelle le Household Spending Intentions Index. Donc, en fait, ça, c'est une analyse de combien les gens dépensent. Est-ce que c'est c'est plus ou moins que le mois d'avant, l'année d'avant, et dans quels endroits ils dépensent de l'argent. Et ils disent que cet index est au plus haut niveau qu'on a vu depuis juste avant le début de la pandémie. Et qu'en fait, les intentions par les Australiens de dépenser de l'argent est montée par 2,1% en novembre. Et donc, c'est pas loin du record qu'on a vu en décembre 2019. Et l'économiste en chef au Commonwealth Bank, il s'appelle Stephen Hamarick, il a dit que en fait, on voit là une forte reprise économique en Australie suite au confinement qu'on a vu au Victoria, en Nouvelle-Galles du Sud et ailleurs. Et il a dit que c'est parce que les ménages ne pouvaient pas dépenser beaucoup d'argent pendant les confinements. Et donc, maintenant, ils ont économisé énormément d'argent. Et en fait, la banque, selon la banque, les Australiens ont économisé à peu près 240 milliards de dollars. Ce qui est bien sûr énorme. Ça, c'est des niveaux qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Et donc, les gens, ils sont prêts à dépenser d'argent à Noël. Alors, peut-être plus que l'année d'avant, on ne sait pas vraiment. Mais déjà, on regarde cet index et on voit que, par exemple, dans l'endroit des détails en vente, les dépenses ont monté par 21% depuis le mois d'août. Donc seulement en quelques mois, les gens sont en train de dépenser plus dans les grands magasins pour acheter des habits, des meubles, des choses comme des machines à laver, des fours, des bijoux, même sur leurs chiens, leurs chats, les animaux. Donc voilà, on voit que les Australiens dépensent beaucoup sur ça, mais aussi ils se préparent à prendre des vacances. Les frontières entre les États qui sont de plus en plus ouverts. Donc on voit qu'ils dépensent un peu plus sur le transport maintenant, sur les voyages et sur les choses qui vont avec les voyages. Donc les hôtels, les agences de voyage, des billets d'avion, d'autres événements des touristiques et même sur la location des voitures, sur des bateaux, sur des bus, aux aéroports. Donc tout ça, ça commence. Encore une fois, tout ça, c'est des endroits qui avaient été vraiment frappés très très fort par la pandémie, qui maintenant, on voit qu'il y a une forte reprise. Donc, mais vraiment des bons signes là.
Bonne nouvelle, mais le prix de l'huile de canola monte en flèche avec des conséquences pour un des plats préférés des Australiens.
Ben oui, parce que cette huile-là, c'est utilisée pour les fish and chips. Et bien sûr, les gens, ils adorent les fish and chips. Et le problème, c'est que en fait, il y a un manque de l'huile de canola. Et c'est parce qu'il y a une très forte demande à l'international. Et il y a eu un problème au Canada, parce que c'est le Canada qui d'habitude exporte à peu près 60% de toute l'huile de canola au monde. Mais là, ils ont eu des sécheresses là-bas et des problèmes logistiques. Et donc, il y a des problèmes avec l'huile de canola du Canada. Donc, ça présente une très bonne opportunité pour les fermiers ici en Australie, où les prix ont atteint des niveaux plus ou moins historiques. Il y en a qui disent que le prix est monté par 70% dans juste quelques mois. Donc ça, c'est très bien pour les fermiers, mais pour cuire avec, pour les restaurants, pour les magasins de fish and chips, ça veut dire que c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Donc ils sont obligés de lever leur prix pour les fish and chips, pour d'autres nourritures qui sont faites avec l'huile de canola. Donc bonne nouvelle pour les fermiers, pas tellement bien pour les consommateurs. Voilà, c'est les clients qui payent cette fois.
Merci pour cette analyse, Nicolas. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, le plaisir d'avoir Raphaël Delaunay qui dirige l'Alliance française d'Adélaïde. Bonjour et bienvenue, Raphaël.
Bonjour Jean-Noël et bonjour à tous vos auditeurs.
On pourrait peut-être commencer par un petit bilan de l'année qui prend fin déjà. En South Australia, il n'y a pas eu tellement de lockdown à long terme comparé comme chez nous.
Effectivement, en South Australia, on a eu énormément de chance cette année puisqu'on a eu un seul épisode de lockdown qui a duré 7 jours. En dehors de ces quelques jours, on a pu opérer tous nos cours en face à face. Je pense à la grande joie de nos étudiants et je les remercie sincèrement tous d'avoir joué le jeu des mesures de sécurité, entre guillemets, au sein de l'Alliance en respectant la distanciation sociale, en respectant le port du masque. Je sais notamment qu'en course, ce n'est pas quelque chose de toujours très agréable, mais sincèrement, je remercie l'ensemble de la communauté d'avoir joué le jeu et permis de préserver un environnement serein au sein de l'Alliance.
On parle peut-être déjà des inscriptions qui sont déjà ouvertes pour les cours de 2022 et pas mal de nouveautés aussi à offrir aux gens qui s'intéressent à la langue française.
Oui, alors effectivement, on a l'impression que l'année 2021 est passée extrêmement vite et on arrive déjà à la fin du trimestre 4. C'est la dernière semaine de cours pour les enfants et il reste 2 semaines pour les adultes. Et évidemment, on prépare déjà l'année 2022 qui va s'annoncer en 2 temps. Dans un premier temps, on va avoir un certain nombre d'ateliers pour l'été et notamment des ateliers qui vont permettre de se reconnecter avec la langue et la culture française juste avant la grande rentrée scolaire, on va dire. Et pour ces ateliers-là, il y a pas mal de nouveautés. Je pense alors notamment aux enfants. On fait évoluer le format des ateliers que l'on propose avec des matinées pour les enfants. Donc, ce sont des matinées de 2 heures pendant toute une semaine. Et chaque jour est dédié à une couleur différente. En l'occurrence, les 5 couleurs, puisqu'il y aura 5 jours entre le lundi et le vendredi, seront celles des drapeaux français, australiens et aborigènes. Donc, il y aura un jour blanc, un jour bleu, un jour rouge, un jour noir, un jour jaune. Et les profs auront la liberté de créer des activités autour de ces couleurs. Donc, je vais vous donner par exemple l'exemple de la couleur noire qui aura lieu le vendredi. Il y aura entre autres un atelier cuisine proposé aux enfants pour faire une mousse au chocolat.
Très bien.
Ensuite, on va avoir... Alors ça, c'est programme pour les enfants, mais les adultes ne sont évidemment pas en reste, avec 2 ateliers. Alors bien sûr, tous les ateliers classiques de renforcement linguistique pour revoir toutes les notions qui peuvent être parfois un peu difficiles quand on apprend la langue française. Je pense à la phonétique, je pense à la grammaire, je pense à l'écoute. Mais on va avoir 2 ateliers un peu différents, on va dire. Un premier qui est le French for Travelers, avec la bonne nouvelle, nous l'espérons confirmée, de l'ouverture progressive des frontières de l'Australie et qui vont permettre notamment à certains Australiens qui désespèrent de pouvoir voyager, de pouvoir préparer sereinement leur séjour en France. Et puis, nous aurons également un atelier cinéma qui sera dédié à l'acteur Jean-Paul Belmondo, qui nous a malheureusement quittés cette année. Donc, ce sera un atelier qui permettra de découvrir un peu son parcours artistique, qui est extrêmement riche. C'est vraiment un symbole dans le cinéma français. Et cet atelier sera suivi d'une projection en plein air, si le temps le permet, bien sûr, d'un film de Jean-Paul Belmondo. Mais tout ça se passera à l'Alliance française, à Wavell.
Et je reviens sur le mois de décembre, parce qu'il y a cette série de conférences autour de la Révolution française qui va prendre fin bientôt.
Oui, la dernière, c'est ce vendredi et on est absolument complet. C'est vraiment un grand succès. Nous avons la chance d'avoir Romain Fati, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Flinders. C'est le 2e cycle de conférences qu'il fait à l'Alliance française. Celui-ci est dédié à l'histoire de la Révolution française. Cette dernière conférence sera plus axée sur l'après-Révolution française. Et nous espérons pouvoir le retrouver l'année prochaine sur d'autres thématiques avec d'autres conférenciers dont le principe est toujours de prendre un aspect de la culture française et de pouvoir le faire découvrir de façon amusante avec un grand spécialiste du sujet.
Et ensuite, le lendemain, une célébration de fin d'année, le samedi 11 décembre, avec un tournoi de pétanque, d'après ce que je comprends.
Exactement. C'est vrai que la dernière semaine du trimestre est toujours un moment extrêmement convivial à l'Alliance entre les étudiants et les professeurs qui partagent toujours beaucoup de cuisine et de douceur française, je dirais. Et on a souhaité, par le biais de cette pétanque partie, pouvoir réunir tous nos étudiants, toute notre équipe, tout le conseil d'administration pour avoir un moment de célébration tous ensemble, en plein air, en profitant de l'été et bien évidemment dans un environnement Covid-safe. Donc ça se passera samedi après-midi au club de pétanque sur Green Hill Road. Il y aura un déjeuner qui sera servi et une armée de volontaires qui permettront d'expliquer les règles de la pétanque pour tous les âges. Donc, c'est évidemment un événement qui est family friendly. Donc, les enfants sont les bienvenus. Il y aura des espaces spécialement pour eux. Et voilà, ça sera, je l'espère, un moment vraiment convivial et de partage tous ensemble.
Et aussi l'occasion d'une collecte de jouets et de matériel scolaire pour aider ces enfants qui sont dans le besoin en South Australia.
Effectivement, pour la première fois, l'Alliance française d'aide à l'aide a souhaité s'associer avec une association locale qui s'appelle Backpacks for SA Kids, dont le principe est de pouvoir collecter des éléments dont les enfants peuvent avoir besoin avec le principe que tout tienne dans un sac à dos. Donc, ce peut être des jouets, ce peut être des activités, ce peut être des vêtements, des DVD, des kits de soins. Nous collectons tous ces éléments et je remercie énormément tous nos membres et les étudiants qui ont déjà commencé à nous apporter beaucoup de choses. On sera ravis de pouvoir remettre l'ensemble de ces éléments à cette association. Et effectivement, la fin de la collecte sera marquée le jour de la pétanque. Une dernière petite chose, nous sommes en train de reconstruire une nouvelle page Facebook qui nous permettra de pouvoir bien communiquer sur tous nos événements. C'est quelque chose qui nous est demandé par nos étudiants et par nos membres. Je vous invite à suivre sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, l'adresse de cette nouvelle page et la suivre et en parler à vos amis et à vos amis d'amis et amis d'amis 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 pour que cette page soit un grand succès et avec beaucoup de nouveaux contenus que l'on espère pouvoir diffuser à partir de la rentrée prochaine.
Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et on reprend contact en 2022.
Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année, Jean-Noël, à vous, vos proches, tous vos auditeurs, en espérant que d'une manière ou d'une autre, ces fêtes puissent se passer en famille, entre amis, de façon chaleureuse et d'être créatif dans la façon de rester connectés tous ensemble.
Merci, merci à vous.
Merci, Jean-Noël.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, ce sera pour samedi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Et on va vous laisser en musique avec la femme de l'année, Jo Weddin et Jean Felzin. Belle journée, à bientôt.
La femme de l'année.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.